Radio Cité Genève.
Cité Culture. Epiphanie Amonfo.
Bienvenue à toutes et à tous dans cet autre numéro de Cité Culture. Nous avons profité de l'exposition Figuration Narrative, un autre langage pop, qui est jusqu'au 15 décembre prochain au Musée d'art de Puyic, pour rencontrer Jean-Claude Gandur, collectionneur d'art et mécène de renom. Dans cet entretien, il va nous livrer son regard sur l'exposition, parlera du tournant significatif dans le paysage culturel français avec la création prochaine d'un nouveau musée à Caen, en Normandie. Ce projet vise à transformer cette région en un pôle culturel majeur en y abritant une partie de sa prestigieuse collection. Entretien. Bonjour Jean-Claude Gandur.
Bonjour monsieur, comment allez-vous ?
Bien et vous-même ?
Très très bien.
Vous êtes collectionneur d'art et mécène. Votre collection est riche de plus de 4000 œuvres, couvrant l'art ancien, l'art moderne et contemporain. Il y a une exposition ici à Puyi, donc au musée d'art de Puyi. L'exposition est intitulée « Figuration narrative, un autre langage pop » et elle se tient jusqu'au 15 décembre prochain. Cela rassemble plus de 80 œuvres sur environ 400. Comment l'avez-vous constituée ?
Il y a eu une exposition à Paris il y a quelques années sur la figuration narrative qui avait été créée par un des conservateurs de Beaubourg. J'avais été la visiter et j'avais été enthousiasmé par ce que j'avais vu. Mais je me suis dit, tiens, c'est un beau mouvement à collectionner. Et ma chance, c'est qu'à cette époque-là, c'était un mouvement qui n'intéressait personne. Donc j'ai pu vraiment trouver des tableaux exceptionnels que j'ai fait rentrer dans la collection au fur et à mesure, pendant une dizaine d'années, pour arriver justement à un ensemble très cohérent. Ensuite, j'ai ouvert ce premier cœur de collection à des acteurs moins connus, mais qui se rattachaient au mouvement plutôt pop européen, qui sont venus s'ajouter pour raconter une histoire. Pour raconter l'Europe d'après-guerre, les mutations sociales et politiques qui vont culminer en 68 et bouleverser au fond la manière de voir le monde.
Vous vous souvenez du premier tableau que vous avez acquis ?
Tout à fait. Le premier tableau que j'ai acquis s'appelle GI 36000, fait par Télémaque, peintre haïtien d'origine qui travaille aux États-Unis, qui ensuite vient s'installer en France. Et je rentre par hasard dans une vente aux enchères. Je vois ce tableau, je tombe amoureux, j'achète ce tableau. J'ai vécu avec ce tableau d'ailleurs très 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 longtemps. Il était dans ma maison en Suisse. Peu à peu, autour de ce tableau, je me suis dit, il faut créer une collection. Il faut aller plus loin que simplement avoir un beau tableau.
Vous avez choisi les tableaux d'artistes pop européens et pas américains.
Il faut être honnête, il y a aussi une question de prix. Warhol, Wassermann ou Liechtenstein, c'est hors de propos. Avec un tableau de Liechtenstein, je fais une collection. Donc un tableau ne fait pas une collection.
Ce n'était pas une question de, on va dire, d'idéologie, contrairement au tableau.
Bien que je pense que le pop européen est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que d'abord, il est beaucoup plus politique. Il s'appuie davantage sur l'avenir sociétal dans lequel nous vivons. Il s'est intéressé à des thèmes essentiels à l'époque environnementale, des thèmes sur l'immigration, sur l'urbanisme, sur la condition de la femme, sur la mutation de la manière de peindre, que je ne retrouve pas dans la peinture américaine. Elle est très esthétique, elle est très américaine, mais elle n'a pas, je dirais, cet impact politique essentiel dans une collection pop. Je me suis vraiment appuyé, je voulais une collection intelligente qui montre ce qui se passe, qui raconte, qui va être un témoignage historique pour les générations futures, je sais pas, moi, dans 100 ans, dans 150 ans. À travers cette peinture, ils comprendront peut-être ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que nous avons vécu, nous ? Moi, j'avais quoi, 19 ans à l'époque ? Et qu'est-ce que j'ai vécu à ce moment-là ? Et c'est d'autant plus important que lorsque j'ai fait la visite de ma première exposition pop au mémorial de Caen, il y avait énormément de jeunes. Et je me suis adressé à eux. Et j'ai dit, vous voyez, jeunes gens et jeunes filles, nous avons lutté pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles vous luttez aujourd'hui. Exactement les mêmes. Nous n'avons pas réussi à aller très loin. Donc je vous souhaite d'aller beaucoup plus loin que nous et d'adresser les bons problèmes, de trouver les bonnes solutions. Nous, on a posé le problème, on n'a pas trouvé la solution. On s'est fait dépasser. On s'est fait dépasser par le politique qui nous a dit, allez jouer. Alors, n'allez pas jouer. Continuez à vous battre pour des choses auxquelles vous croyez. Parce que c'est essentiel pour votre avenir.
De quand nous en parlerons dans cet entretien. Alors, pour en revenir justement à cet art pop européen et pop américain, peut-être feront-ils l'objet d'une exposition au cours de laquelle on pourra les mettre peut-être en opposition et en dialogue, n'est-ce pas ?
En dialogue, je ne suis pas certain qu'on y arrive. Sincèrement, je ne pense pas. Parce qu'on est dans deux mondes complètement différents et je ne sens pas chez les Américains qu'ils ont eu le courage même de dire ce qu'ils ont fait de faux à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Nos artistes ont eu le courage d'aller au-delà de l'esthétique. Les Américains sont restés sur l'esthétique. Warhol, c'est un thème purement américain. C'est Marilyn Monroe, c'est le président ou la femme du président Kennedy, c'est le rockman Elvis Presley. Voilà, on ajoute, je dirais, des gloires, mais elle n'apporte pas quelque chose à l'histoire de l'humanité. Lorsqu'un peintre comme Télémaque montre un soldat américain qui envahit la Grenade, c'est un message politique pur, c'est-à-dire que l'Amérique se conduit comme si elle était chez elle et qui considère que d'envahir un pays, c'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème, on n'aime pas le président, on va le débarquer. On ne parle pas de la même chose. Et d'ailleurs, Télémaque a quitté l'Amérique alors qu'il habitait là-bas, parce que c'est très mal vu de critiquer ce que font les Américains. Et je ne suis pas certain même que les galeries américaines ou les collectionneurs américains voudraient d'une collection croisée, parce que nous sommes trop politiques en Europe pour eux. C'est beaucoup plus aseptisé, États-Unis.
Eh bien, dans cette exposition ici à Puyi, au Musée d'art de Puyi, jusqu'au 15 décembre prochain, d'ailleurs, Musée d'art de Puyi qui célèbre son 75e anniversaire avec cette exposition intitulée Figuration narrative, un autre langage pop. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer aux visiteurs, aux visiteuses? Pourquoi vous avez voulu mettre en avant 80 œuvres de votre collection?
Je dirais, il y aura deux publics. Il y a un public qui va venir pour l'esthétique. Il y a quand même une très belle esthétique de travail, c'est très visuel, très simple d'appréhension. Et puis, il y a un public qui va venir plutôt pour découvrir le message, les messages que ces peintres ont voulu convoyer à leur époque. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en réalité. Tant mieux s'il y a de l'esthétique, parce que je suis moi-même quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à ce qui est beau, mais parce que le beau apaise et le message fait réfléchir. Et il faut les deux. C'est-à-dire, il faut les deux. Si l'œuvre n'est pas belle, on la regarde pas. Donc, à travers le beau, on va obliger peu à peu, par la médiation, aux gens de réfléchir aux messages qui ont été transmis.
Il y a quelques mois, nous apprenions donc le choix de la ville française de Caen, en Normandie, pour implanter votre musée loin des centres traditionnels comme Genève, Paris. Pourquoi ce choix ?
Vous êtes sûrement au courant que j'avais proposé un accord avec Genève et que finalement le projet muséal qui avait été dessiné par Jean Nouvel a été refusé par la population. Donc fatalement, notre accord ne tenait plus. Et la Suisse, le grand problème, c'est les terrains. Trouver un grand terrain pour faire un musée aujourd'hui, c'est quasiment impossible. À part ce qui est en ville, tout ce qui est le terrain agricole, etc., ne peuvent pas être déclassés, même pour un musée. Donc je me suis trouvé très limité dans la possibilité d'ouvrir un musée selon le schéma que j'avais en tête. Donc je me suis adressé plutôt à un pays où c'est plus facile de trouver du terrain. On a fait une étude quand même extrêmement sérieuse sur un certain nombre de villes qui s'étaient manifestées pour accueillir un jour ce musée. Il y avait entre autres Rouen, Bordeaux, Strasbourg, Arles, etc. Et nous avons fait ça en deux étapes. Une première étape avec des spécialistes de questions plutôt urbanistiques et de société, c'est-à-dire d'aller interviewer les mairies, savoir quels étaient leurs programmes culturels, quels étaient les moyens de locomotion, quels étaient les programmes environnementaux, etc. Et ensuite, des questions un petit peu plus pointues sur les deux derniers finalistes, qui étaient Bordeaux et Caen, sur le terrain qu'ils pouvaient mettre à disposition, etc. Et finalement, le choix s'est porté tout naturellement sur Caen, une région qui a de beaux musées, qui a un passé prestigieux et surtout qui avait très envie de nous accueillir. Donc j'ai trouvé un terrain très favorable, très amical, une population qui s'est ralliée au projet. Le conseil municipal de Caen, dans son intégralité, y compris toute l'opposition, ont voté pour ce projet. Donc je ne pouvais pas dire non.
Quelle serait la particularité de ce musée par rapport à d'autres grandes institutions culturelles ?
Alors évidemment, je ne veux pas me comparer aux grandes institutions. On va rester quand même un musée à dimension humaine. Mes collections, ce n'est pas Beaubourg, c'est grandeur. En revanche, je cherche des modèles qui intègrent intègre énormément les populations d'une ville. On s'adresse beaucoup aux jeunes, on s'adresse beaucoup à des populations qui n'ont pas l'habitude d'aller dans un musée, avec des animations, avec un certain nombre de nouveaux critères. On va pas faire un musée encyclopédique. C'est loin.
C'est-à-dire, on va retrouver quoi, par exemple, dans ce musée?
Alors, il y aura même des choses encyclopédiques, mais ça ne sera pas systématique. C'est-à-dire, on va pas aligner des objets dans une salle en disant, voilà, il y a tant de pots de confiture et il y a tant de boîtes de sardines. Donc, on va essayer d'être imaginatif, on va essayer de faire des regards croisés entre les périodes, entre les pays. J'ai quand même une très grande collection aujourd'hui d'art africain contemporain, peinture contemporaine, et que je continue à développer, qui va me servir aussi de support pour raconter le continent africain à travers les yeux aussi bien de ceux qui habitent que de la diaspora. J'ai fait toute ma carrière en Afrique, donc je suis très sensible à cet art populaire qui est quand même très fort, très parlant, qui me rappelle un petit peu le pop art, je dirais d'une certaine manière. L'Afrique est là où nous étions il y a 20 ans ou 30 ans, avec leurs yeux et surtout un sens de l'humour que nous n'avons pas toujours dans la peinture européenne. Moi, je connais quelques artistes, quand ils se moquent de leurs autorités, c'est à la fois piquant, mais il y a toujours de l'humour, il y a toujours le sourire. J'ai un tableau, par exemple, où vous voyez un politicien qui est en train de parler, et la moquerie, c'est qu'il a un perroquet sur son épaule, et qu'il y a les postillons qui sortent de sa bouche, et on sent que c'est blablabla, 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 bla, et que les gens sont en bas à applaudir. Vous voyez, c'est uniquement visuel. Le regard croisé, c'est très important, vous savez, de prendre un objet océanien, de le mettre en perspective avec un objet moyenâgeux, montrer les correspondances, ou un objet précolombien. Ce sont des religions différentes, ce sont des mœurs différentes, mais finalement, on revient à la femme, on revient à l'enfant, on revient à la vie sociétale, etc. Ça va peut-être ouvrir les yeux aux gens et se rendre compte que sous tous les horizons du monde, nous pensons aux mêmes choses, différemment, mais les mêmes choses.
Comment vous envisagez l'architecture de ce musée? Quelles sont, on va dire, les valeurs ou les concepts que vous souhaitez voir reflétés dans son design?
Alors déjà, j'aimerais un musée qui soit très proche de la nature. C'est-à-dire, c'est pour ça que Caen était un choix délibéré, parce que le terrain qui est mis à disposition est très important. C'est, au fond, découper une propriété à l'intérieur d'un immense parc. Ça veut dire qu'au fond, si on ne met pas de barrière, on a tout le parc. C'est ça que je trouve très, très intéressant. C'est, le public vient, il a envie de pousser la porte, il rentre dans le musée, il veut s'installer, il fait un pique-nique dans le parc. Il fait un pique-nique dans le parc. C'est accueillir, si vous voulez. Je cherche à ne plus utiliser le mot musée, mais plutôt quelque chose comme lieu de culture et d'art, où on va mélanger les arts, les montrer d'une façon différente et retrouver certaines valeurs qu'il y avait même déjà au Moyen-Âge, qui étaient au fond des choses très simples. Les saltimbanques, vous savez, sur le parvis de l'église, il y avait les marchands de quatre saisons, il y avait les tréteaux, le théâtre, etc. Pourquoi ne pas recréer ça dans le parc d'un musée ou d'un lieu de culture? Ça va accueillir des gens, ça va aider de jeunes artistes locaux à s'exprimer.
Justement, des résidences d'artistes ou des collaborations avec des créateurs contemporains?
Absolument, c'est prévu à terme d'avoir 4 résidences qu'on construira à côté du lieu pour les accueillir et leur permettre d'exposer. J'avais aussi une autre idée, c'est de créer une pièce à l'intérieur du bâtiment qui servirait à accueillir de jeunes artistes de la région ou d'autres régions qui pourraient, s'ils sont choisis par le jury, venir exposer ce qu'ils font pendant 3 mois à nos frais, c'est gratuitement, ce qui leur permettrait de se faire connaître. Et nous, ça nous permettrait de faire une petite plaquette sur leur travail, de la diffuser à travers les autres musées en France et leur donner une chance peut-être d'être remarqués par des galeries.
Donc avec ce projet, vous semblez, va-t-on dire, réécrire les règles de philanthropie culturelle. Quels conseils donneriez-vous à d'autres collectionneurs ou mécènes qui souhaitent avoir un impact similaire?
Écoutez, je ne suis pas donneur de leçons. Ce n'est pas mon métier. Je crois que soit vous avez la fibre philanthropique et sociale, soit ça sert à rien d'essayer de l'enseigner. Moi, personne ne m'a appris, je n'ai pas fait d'études de sociologie pour dire j'aime ceci, j'aime cela. Donc je crois que chacun doit parler avec son cœur ou avec sa tête, ça dépend. Je leur souhaite beaucoup de bonheur, comme j'espère qu'ils me souhaitent beaucoup de bonheur.
Avant de mettre un terme à notre entretien, comment vous percevez l'évolution du marché de l'art aujourd'hui et en quoi ce musée pourrait aussi influencer ou refléter ces changements?
Écoutez, c'est beaucoup d'ambition ce que vous me demandez là. J'espère effectivement que nous allons attirer surtout un public qui rentre jamais dans les musées, qui a peur. Et pourquoi cette peur? Parce qu'on a tellement présenté le musée comme un lieu d'élite, un lieu de gens qui connaissent et que donc ce n'est pas pour les autres. Moi, je veux inverser les flux. C'est de dire, si c'est pas pour les autres, c'est pour tout le monde. Je ne vais pas dire aux élites de ne pas venir, mais je veux que ceux qui pensent que ce n'est pas pour eux changent d'opinion et se dire, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. Et là, j'aurais gagné mon paradis.
Merci à vous, Jean-Claude Gandur. Vous êtes collectionneur d'art et mécène. Je rappelle l'exposition Figuration narrative, un autre langage pop. C'est au Musée d'art depuis jusqu'au 15 décembre prochain. Merci également à toutes et à tous et belle suite de journée à l'écoute de notre antenne Radio Cité Genève 92.2 FM. Cet entretien ainsi que les autres sont à retrouver sur le site de la radio, donc radiocité.ch. À tout bientôt.
Merci beaucoup à vous. Ça m'a fait très plaisir de faire votre connaissance.